un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, le 14 mars 1989, il y a donc 15 ans, l'impératrice et reine Zita de Habsbourg, épouse de l'ancien empereur d'Autriche-Hongrie, rendait son âme à Dieu à presque 97 ans. Quasiment un siècle donc, une vie, et même, nous pouvons le dire, plusieurs vies, pendant lesquelles elle dut faire face à deux guerres mondiales, au totalitarisme nazi et communiste. Elle n'aura certes pas vu la chute du mur de Berlin, mais aura déploré la chute des monarchies européennes, assisté à la construction européenne et vécu l'émergence de la société de consommation, tout comme la révolution de l'électronique. Qui fut Zita de Habsbourg? Eut-elle un rôle politique bien défini? Quelle place avait-elle dans le monde des têtes couronnées? Était-ce une femme au fond du 19e siècle ou bien au contraire une moderne consciente de l'évolution des sociétés? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, un jour dans l'histoire reçoit Jean Sévilla. Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, vous êtes même rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, historien, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment des ouvrages qui ont suscité diverses polémiques, je citerai Le terrorisme intellectuel ainsi que Historiquement correct, et vous êtes aussi l'auteur d'une biographie consacrée à Zita de Habsbourg. Cette biographie est parue en 1997 et les éditions Perrin viennent de rééditer cette biographie dans leur collection de poche, la collection Tempus. Alors, ma première question, qui est un peu une question traditionnelle dans l'émission Un jour dans l'histoire, sera la suivante. Jean Sévilla, pourquoi Zita? Et j'ai envie de dire, pourquoi l'Autriche?
Alors, il se trouve que ma réponse est très personnelle. J'ai une relation affective très ancienne qui remonte à mon enfance avec l'Autriche. C'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel je suis allé dès l'enfance, dans lequel j'ai noué des véritables amitiés et à l'histoire duquel je me suis intéressé vivement. Et la personnalité de l'impératrice Zita est très emblématique, à mon avis, de l'histoire de l'Autriche par, d'une part, sa durée, la durée de la vie de l'impératrice, puisque cette souveraine est morte à 97 ans, parce qu'elle a connu la gloire, à l'image du vieil empire austro-hongrois, parce qu'elle a connu la brisure d'une vie à l'image de l'empire austro-hongrois qu'on a démantelé en 1918, et puis elle a continué malgré tout sur une autre voie, tout en restant elle-même, et de même que l'Autriche a continué sur une autre voie en restant elle-même. Voilà.
Alors venons-en à ses origines familiales. Zita, vous l'écrivez, Jean Sévilla, Zita disait « J'ai vécu dans ma famille une enfance extraordinairement joyeuse et heureuse. » Et vous évoquez une maison où chaque jour 30 à 34 personnes sont à table. C'est extraordinaire. C'est une grande famille, la famille de Zita?
C'est une très grande famille. Elle est la fille du duc de Parme. Elle est née princesse de Parme et son père a été le dernier duc régnant de Parme. Alors le duché de Parme, on a un petit peu oublié ce que c'était. Ça fait partie de ces confettis de l'histoire, de ces mini-États qui formaient l'Italie avant l'unité italienne. On a oublié qu'avant le 19e siècle, l'Italie a été une poussière ou une multiplicité d'États.
Tout comme l'Allemagne.
Et le duché de Parme était un territoire restreint, mais ayant une grande assise financière et de prospérité. Et donc la famille ducale de Parme était une famille non seulement souveraine, mais qui possédait des moyens d'autant plus importants que cette famille était une famille de Bourbon, puisque les Bourbons de Parme, à partir du XVIIIe siècle, sont en fait une branche cadette de la famille royale d'Espagne, qui elle-même est une branche cadette issue des Bourbons de France, puisque le petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, est devenu Philippe V. Mmh. Donc les ducs de Parme, les ducs de Bourbon, la famille de Bourbon-Parme descend à la fois de Louis XIV et de la famille royale d'Espagne. Et donc Zita naît son père au fond est un souverain déchu, mais reste un souverain avec un train de vie qui reste un train de vie princier. Et le père de Zita s'est marié deux fois. Et il a perdu sa femme Il a perdu sa première épouse après avoir eu 12 enfants. Et avec sa seconde épouse, il a eu à nouveau 12 enfants. Ce sont évidemment des familles d'autrefois. Alors, il y a eu quelques...
Il y a des oncles, vous dites dans votre livre, il y a des oncles qui seront plus jeunes que les neveux.
Voilà, exactement. Donc, cela donne une grande, grande maisonnée avec des cousins, des serviteurs, évidemment. Et donc, Zita a vécu dans ce cadre, toute jeune, d'une famille très pieuse, puisque le catholicisme comptait beaucoup dans sa famille, et d'une famille pieuse, nombreuse et en effet joyeuse.
Nous reviendrons sur la famille. Je voudrais un instant revenir sur Robert de Parme. Donc, vous avez dit qu'il possédait une des premières fortunes d'Europe, mais sur le plan politique, il n'a guère de pouvoir. Quelle est au fond la nationalité de Robert de Parme et de cette famille ?
C'est très ambigu, c'est très... D'abord, la notion de nationalité, au fond, est une notion relativement récente hein, qui s'est fixée sur un plan de droit international au XIXe siècle. Hein. Les ducs de Parme disaient... Enfin, le duc de Parme avait l'habitude de dire « Nous sommes des princes français qui avons régné en Espagne et en Italie. » Donc, ses enfants... auront la nationalité au sens juridique moderne, pour certains la nationalité autrichienne, pour d'autres la nationalité française. Mais lui-même était un prince d'ancien régime, en quelque sorte, et cette famille ne cherchait pas à se définir par rapport à une nationalité au sens où nous l'entendons, nous. C'était une famille qui raisonnait plutôt en termes de légitimité dynastique. On était, au fond, dans une conception pré-révolutionnaire de loyalisme dynastique et de continuité dynastique au-delà des frontières.
Peut-on opposer ce concept de légitimité à ce concept de nationalité ?
Dans une certaine mesure, oui. Il y a une articulation qui finira par se faire entre les deux à la fin du XIXe siècle, quand les familles royales, au fond, se calent dans des frontières. Mais les Parmes sont le type même de familles qui, au fond, sont à cheval entre plusieurs cultures, plusieurs nations, et s'y sentent parfaitement à l'aise. Le duc de Parme est le propriétaire du château de Chambord, et quand il est à Chambord, il est prince français, il se sent parfaitement chez lui. Quand il est à Viareggio, en Italie, il est un prince qui vit en Italie et il se sent parfaitement chez lui. Quand il est en Autriche, il se sent également chez lui parce qu'il a des biens en Autriche. Ce sont des concepts qu'on a du mal à comprendre parce que nous sommes les enfants d'un siècle, encore que maintenant avec l'Europe, c'est en train de changer, mais le 20e siècle a été le 19e et plus encore le 20e siècle a été le siècle des nationalités. Les Parmes sont au fond encore dans une culture qui est celle du 18e siècle, celle d'avant la Révolution.
Oui, le concept de nationalité, on a tendance à l'oublier, au fond c'est un concept purement révolutionnaire au 19e siècle.
Il prend un sens révolutionnaire, mais je crois, moi, personnellement, que le concept national est un concept ancien. Et le mot, on le trouve, Bossuet l'employait, et même Louis XIV l'a employé. Je crois que le mot nation existe sous l'Ancien Régime, en France aussi. Simplement, la Révolution a durci ce terme, lui a donné un sens très spécifique et un sens, au fond, un petit peu belliqueux, qu'il ne revêtait pas nécessairement avant la Révolution.
Alors revenons-en à Zita à proprement parler. Quelle fut la vie de cette jeune fille dans cette grande famille où 30 à 34 personnes étaient à table Quelle fut sa jeunesse en quelques mots ?
Écoutez, sa jeunesse était celle vraiment d'une jeune princesse, une vie évidemment matériellement facile, hein, grande aisance et grand train de vie, je le disais, grande piété, une famille pour qui la foi est très très importante, la foi catholique, et avec une confrontation alors qui est très particulière et qui est au fond assez moderne pour l'époque, à savoir que j'ai dit que le duc de Parme avait eu beaucoup d'enfants, et sur ce nombre d'enfants, il a eu plusieurs qui étaient handicapés mentaux. Et chose très particulière, à une époque où on avait tendance à cacher un petit peu les handicapés, ça a été la tendance pendant très très longtemps, le duc de Parme, lui, tenait à ce que ses enfants handicapés vivent au cœur et au centre de sa famille. Il tenait à ce qu'ils soient éduqués et vivent la même vie, si l'on peut, que leurs frères et sœurs. Et donc,
il était en avance sur son temps.
Il était en avance sur son temps, tout à fait. Et donc, Zita s'est beaucoup occupée de ses frères ou sœurs handicapés mentaux. Et jusqu'à l'âge scolaire, voilà, elle a vécu la vie heureuse d'une jeune princesse. Et puis ses études, il y a un jour, malgré tout, c'est aussi un petit peu moderne parce que le duc de Parme avait, dans son milieu, on a plutôt les enfants, les jeunes princes étaient en général plutôt élevés par des précepteurs. Et le duc de Parme lui a voulu que ses enfants aillent dans des collèges, ce qui n'était pas, c'est aussi le choix qu'avait fait Louis-Philippe. Enfin, c'est, selon les familles royales, ce sont des choix qu'on voit apparaître au 19e siècle, mais qui sont relativement modernes. Et c'est en tout cas le duc de Parme avait fait ce choix-là. Et donc, la princesse Zita ira au collège. Elle ira dans un collège dans le sud de l'Allemagne.
Il y a une chose extraordinaire, Jean Sévilla, c'est que vous dites que chez les Bourbons-Parme, on parle 6 langues. Alors on a du mal à imaginer comment
ça rejoint ce que je vous disais il y a un instant. L'allemand est une langue maternelle, l'italien est une langue couramment parlée, l'espagnol aussi, le français évidemment, on se débrouille très bien en anglais, et comme la mère de Zita, le duc de Parme a épousé sa deuxième épouse, est une princesse portugaise, enfin issue du Portugal, c'est une Bragance, quoique elle ait vécu aussi en Allemagne, enfin toutes ces histoires sont compliquées, eh bien on parle aussi un petit peu de portugais à la maison.
Mais l'apprentissage de ces langues se faisait au fond en
naturellement,
en
spontanément. Si vous regardez souvent les enfants aujourd'hui de familles de diplomates qui ont les pieds à travers les frontières, et on s'aperçoit que les enfants acquièrent plusieurs langues très spontanément et on ne se pose pas de questions. Bon, mais ça fonctionnait comme ça dans ces familles.
Alors vous dites elle aura du mal, parce qu'elle devra apprendre par son mariage d'autres langues, elle aura du mal avec le hongrois et le tchèque.
Oui, le hongrois est une langue terriblement difficile. Et elle aura du mal, elle apprendra quelques phrases, mais elle aura beaucoup de mal avec cette langue, oui. De même pour le tchèque. Oui.
Alors nous avançons un peu dans le temps, nous sommes en 1909, un mois d'été en Bohême, à Kurhaus exactement, et c'est là qu'a lieu la première rencontre entre Zita et l'archiduc Charles. Avant de venir à cette rencontre, peut-être quelques mots sur les origines de ce Charles.
Bien, Charles est un Habsbourg, c'est un petit-neveu de l'empereur François-Joseph. François-Joseph avait eu un fils, ce fils s'est suicidé, c'est Rodolphe qui s'est suicidé à Mayerling.
Donc
dans l'ordre de succession, après eh bien, venaient les frères de François-Joseph. Le frère aîné de François-Joseph, Charles-Louis, est mort après un pèlerinage en Terre Sainte. Ensuite, il y avait son frère cadet, le frère cadet qui était Otto, qui avait 2 enfants. L'aîné était François-Ferdinand, et donc François-Ferdinand, neveu de François-Joseph, devient, après la mort de... parce que Otto va mourir assez vite, eh bien, François-Ferdinand va devenir le successeur de François-Joseph. Et Charles, qui est un fils, un neveu de François-Ferdinand, est donc le successeur en second. Mais pour lui, l'espérance du trône est très très lointaine. François-Ferdinand devient prétendant au trône, ou successible en tout cas, alors qu'il a moins de 40 ans, et donc avec une espérance de vie normale qui à l'époque était autour de 70 ans, donc Charles ne pouvait pas espérer régner avant au moins une trentaine d'années, comme il y a une vingtaine d'années, et bien ça veut dire qu'il pouvait penser qu'il serait souverain vers l'âge de 50 ans.
Quel type d'homme est-il ?
Un homme très simple, très direct. Très grande piété, là aussi, ça jouera un rôle, on va le dire tout à l'heure, sans doute. Beaucoup de simplicité, il est officier, tous les princes de la maison de Habsbourg, tous les archiducs sont officiers dans l'armée austro-hongroise. Et il vit ça très simplement, avec les joies simples d'une âme simple, je dirais. Un homme pas compliqué, qui n'aime pas le protocole, qui se défie même du protocole, qui aime le contact direct avec les gens. C'est un bavard qui s'intéresse aux autres et qui aime les autres. Il aime parler avec les gens, il aime le contact humain.
Je reçois Jean Sévilla et nous évoquons autant au fond Zita de Habsbourg que son mari Charles. Nous nous retrouvons après une première pause.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean Sévilla qui est l'auteur d'une biographie de Zita de Habsbourg parue en 1997 et qui vient d'être rééditée aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus. Alors, nous évoquons la rencontre de Charles et de Zita. Et pour Zita, Charles n'était pas un inconnu.
Il y a des cousinages, il y a toujours des cousinages entre tous les princes d'Europe. Ils s'étaient croisés, mais sans se remarquer particulièrement. Et puis à l'été, cet été-là, on est en 1911, et bien il y a quelque chose qui se passe dans le cœur des deux jeunes gens qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Très sincèrement et très simplement amoureux.
Et on a, vous décrivez, oui, cet homme amoureux, et on a l'habitude, de voir des mariages arrangés, mais dans ce cas, l'amour est réel et profond.
Absolument. Ça a été une grande chance pour tant pour Charles que pour Zita, savoir que ils sont tombés amoureux sincèrement l'un de l'autre, mais que ce mariage, au regard des convenances et des règles de leur propre maison, des règles matrimoniales et dynastiques, eh bien, le mariage était possible. Donc c'était le cas de figure idéal, au fond. Et ce mariage se fera. Ce sera donc à la fois un mariage qui, sur le plan dynastique, conviendra à François-Joseph, puisque Charles étant potentiellement son successeur, il ne pouvait pas épouser n'importe qui. Et François-Joseph était très strict sur les règles de ce genre de règles de sa maison. Il les avait même durcies par rapport à ses prédécesseurs.
Il avait d'ailleurs donné, on peut dire, des consignes à Charles sur ce mariage.
Tout à fait. Il fallait qu'il trouve une épouse et que cette épouse convienne. Et donc, Zita étant fille d'un prince souverain, eh bien, cela convenait. Donc, ça sera un mariage d'amour.
Le mariage a lieu en 1911 et c'est aussi l'année où Zita rencontre un homme très important puisqu'il s'agit du pape Pidis, le futur saint Pidis. Et il y a une anecdote sur cette rencontre. Entre les deux, entre Zita et saint Pidis, vous dites que en fait, Pidis, on a l'impression qu'il s'adresse à une future reine.
Oui, avec surprise, puisque au moment où a lieu cette rencontre, Zita est encore fiancée, c'est avant leur mariage. Le successeur de François-Joseph est François Ferdinand, qui est bien sûr en vie. Et Pidis s'est adressé à la princesse Zita comme à la future impératrice. Et Zita était paralysée de timidité en disant « Est-ce qu'il faut que je réponde ? Est-ce qu'il se trompe ? Est-ce qu'il sait que je ne suis pas ?» Et elle n'a rien osé dire. Et après, elle a interprété ça. On sait qu'il y a plusieurs cas de prescience tout à fait étonnante. On peut dire de prophétie peut-être, selon la façon, si on y croit ou pas. Mais qu'a fait Pidis ? Et donc, effectivement, on a l'impression qu'il s'est adressé à elle comme s'il savait que François Ferdinand n'allait jamais régner.
Alors, il s'agit d'un mariage d'amour, mais il n'empêche, le ministre autrichien des Affaires étrangères intervient et négocie le contrat matrimonial. Quel sens a tout cela, au fond ? Quel rôle joue cette intervention d'un ministre ?
Si vous voulez, on est dans une... Je vous l'ai dit, c'est un mariage d'amour, mais en même temps, on est dans une conception du mariage qui n'est pas celle d'aujourd'hui où notre société, souvent d'ailleurs, le mariage passe à la trappe, mais le mariage est aussi une institution sociale. Et donc, c'est une alliance entre deux maisons souveraines. Et donc, il y a une dimension patrimoniale qui est à régler. Donc, ce contrat de mariage est très ultra classique. Se fait dans les familles bourgeoises ou dans les familles aristocratiques ou d'ailleurs dans les familles très, beaucoup plus simples. Mais a fortiori dans une famille souveraine, il y a un certain nombre de clauses pour des données patrimoniales qui doivent être réglées, mises sur le papier et qui sont réglées comme telles.
Au point où le ministre des Affaires étrangères intervient. Donc le mariage a lieu le 21 octobre et il y a une anecdote qui m'a un peu interpellé, c'est que Charles est en uniforme militaire des Dragons de Lorraine. Pourquoi est-il en uniforme militaire des Dragons de Lorraine ?
Mais c'est un salut à ses aïeux, puisque je vous rappelle que la maison de Habsbourg est en fait la maison de Habsbourg-Lorraine. L'impératrice Marie-Thérèse avait épousé, au XVIIIe siècle, avait épousé son cousin François-Étienne de Lorraine. Et en fait, on dit les Habsbourg, on a continué, mais la véritable titulature de la maison de Habsbourg, à laquelle d'ailleurs les Habsbourg sont fidèles, c'est la maison de Habsbourg-Lorraine, à savoir que, puisque du côté mâle, au fond, la filiation est du côté de la maison ducale de Lorraine, et Marie-Thérèse étant une Habsbourg, ayant été elle, enfin, donc l'ascendance étant féminine en l'occurrence.
Le mariage a lieu où ?
Il a lieu en Autriche, au château de Schwarzau, et puis c'est une belle fête, François-Joseph s'y rend, et c'est une fête qui au fond nous est assez présente, puisqu'on est en 1911, je dis à nous présente, à nous hommes du 21e siècle, parce qu'on est en 1911, et la photo existe déjà, la caméra existe déjà, et il y a, tout cela a été filmé, nous sommes ici à la radio, donc on ne peut pas montrer d'images, mais on possède des films, alors les films légèrement sautillants, noir et blanc, comme de cette époque, mais ça a beaucoup de charme et beaucoup de séduction aussi, c'est ce mariage, parce qu'on voit tous ces personnages très importants avec des robes années 1910, des robes longues, des diadèmes, les hommes avec des favoris, des uniformes magnifiques. Il faut imaginer ce spectacle en couleur, parce que là, quand on le voit évidemment sur les vieux films, c'est en noir et blanc, mais c'était quelque chose de magnifique.
Nous n'avons pas parlé du physique de Zita. Est-elle considérée comme une belle femme ?
Écoutez, son visage, la grâce, l'élégance de son visage, tel qu'on le voit sur les couvertures de mes livres, à travers les éditions, puisqu'il y a différents portraits de l'impératrice Zita. Oui, c'est une jeune fille qui a une très grande élégance, avec un cou très dégagé, qui lui permettait de porter des très beaux bijoux. Elle n'aura pas eu l'occasion de les porter longtemps, parce que, on le dira tout à l'heure, il y a eu un moment, elle vivra dans le deuil, pour ne plus le quitter, mais... C'était une personne d'une grande élégance. Oui.
Elle avait beaucoup de charisme.
Oui. Tous les témoins, elle en aura très tard. Elle est morte à 97 ans. Et tous ceux qui l'ont approchée, moi j'ai approché des gens qui l'ont bien connue dans son grand âge, m'ont dit avoir été frappés par sa force de personnalité, sa présence.
Sans vouloir les opposer, peut-on dire qu'elle avait plus de charisme que son mari Charles ?
Je ne le crois pas. Je ne crois pas. J'ai beaucoup travaillé sur la question et je le dis dans mon livre, Charles était un doux. Maintenant, la notion de doux n'est pas comprise aujourd'hui. On croit que quelqu'un qui est un doux, c'est un mou. Mais ce n'est pas la même chose. On peut être doux et en ayant beaucoup de caractère, beaucoup de volonté. Simplement, c'est quelqu'un qui n'aimait pas faire du mal, qui n'aimait pas blesser, qui était attentif aux autres, donc c'était un doux. Alors, une autre question est de savoir, est-ce qu'en politique, il faut être un doux ? Ça, c'est un autre débat. Mais je crois qu'il avait une véritable personnalité, une véritable volonté, il savait où il voulait aller. Y est-il toujours parvenu ? C'est une autre question. Il a pu faire preuve, et je le crois aussi, d'une certaine naïveté dans ses rapports politiques, précisément parce que la politique, parfois, exige pas seulement de la douceur. Les décisions exigent un petit peu de brusquer les événements. Et lui, Charles, n'aimait pas brusquer les événements et brusquer les hommes.
Alors, nous sommes dans les années d'avant-guerre. N'est-ce pas, au fond, les plus belles années de Zita ?
Oui, en un sens, bien sûr. Ses plus belles années, ce sont celles qui sont entre son mariage et puis le moment où les événements vont... Elle règne, au fond, oui, d'une certaine manière. Elle épouse un jeune prince qui est dégagé de soucis politiques immédiats, puisqu'il y a son oncle qui est le successeur de François-Joseph. Lui, il pense à l'avenir, mais l'avenir est un petit peu loin. Ils sont jeunes, ils s'aiment. Leur mariage est très fréquent. Il y aura... 8 enfants entre 1912, naissance d'Otto, et 1922, naissance de l'archiduchesse Elisabeth. Ça fait 8 enfants en 10 années. C'est un couple donc, qui est physiquement proche, c'est évident. Mmh. Ce sont les années heureuses, oui.
Je reçois Jean Sévia, auteur d'une biographie de Zita de Habsbourg. Est-ce que Zita et Charles s'intéressent à la politique avant le déclenchement de la guerre en 1912-1913? Il y a les guerres balkaniques. Ils se sentaient proches de ces événements, de ces bouleversements. Est-ce qu'ils sentaient ces bouleversements?
Oui. Je ne crois pas du tout et je m'insurge même contre cette rengaine comme quoi l'Autriche-Hongrie était un empire décadent qui était promis à la destruction, etc. Maintenant, je crois qu'il y avait de grandes forces de cohésion au sein de cet empire. Maintenant, il est évident qu'il y avait aussi des grandes tensions. Et que ces tensions étaient sensibles et que plus on était proche du pouvoir, plus on le savait. Oui, il y avait des débats sur l'équilibre des nationalités. Oui, il y avait des débats sur la pérennité de l'Empire parce qu'il y avait précisément toutes ces tensions internationales qui devenaient pour l'Autriche-Hongrie aussi des tensions nationales. On était au siècle des nationalités. L'Autriche-Hongrie était un empire multinational, ce qui était contradictoire avec l'époque. Et donc, ces tensions internationales, ces tensions entre les peuples avaient des répercussions interne, puisque l'Autriche rassemblait une douzaine de ses nationalités qui parlaient à peu près autant de langues, qui rassemblaient toutes les religions. Dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, le catholicisme était pratiqué, le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme et même l'islam en Bosnie, si vous voulez. Donc c'était un ensemble en même temps qui avait des grandes forces de cohésion autour de la monarchie, autour de l'Église, autour de la fonction publique, autour de l'armée, autour d'une classe moyenne et d'une bourgeoisie qui se constituait, qui ont donné une très grande prospérité économique, culturelle à cet empire. Maintenant, c'était aussi un chaudron dans lequel bouillonnait un certain nombre de forces qui étaient dangereuses. Et donc, Charles le savait.
Alors nous arrivons précisément le 28 juin 1914, c'est l'attentat de Sarajevo qui a été l'objet d'une émission avec le professeur Jean-Claude Alain, un jour dans l'histoire. Comment apprennent-ils la nouvelle ? Et quelle est leur réaction? On se doute qu'ils ont une réaction de stupeur.
Stupeur, d'abord de très grande... abattement personnel.
Charles, ils étaient proches.
Charles et Zita avaient une très grande affection pour leur oncle et tante, François Ferdinand et la duchesse Sophie Kotek, la femme de François Ferdinand. Et donc il y a d'abord une peine extrêmement profonde personnelle. Et puis c'est le choc. Charles était un officier, jeune officier, qui poursuivait sa carrière, mais qui avait le temps devant lui. Je pouvais dire qu'il serait un jour empereur d'Autriche, mais il avait 30 années pour cela, pour se préparer. Et là, brusquement, il devient le successeur immédiat de François-Joseph. François-Joseph, qui à l'époque a 86 ans à peu près. Donc ça veut dire qu'il va se passer d'une part ce choc de... La mort de François-Ferdinand va avoir des conséquences. Ils ne savent pas encore, juste au moment où ça se produit, mais enfin, ils sentent bien que ça va... Ça va être grave et on sait que ça va être très grave. En effet, ça va enchaîner toute une succession de circonstances qui vont déboucher évidemment sur la conflagration mondiale. Et puis, parce que bon, c'est un bouleversement du destin considérable pour Charles et Zita, Charles devient le successeur de l'empereur. C'est une responsabilité considérable à laquelle il ne s'attendait pas si tôt.
Est-ce qu'il y a une appréhension face à cette responsabilité prochaine ?
Oui. Et appréhension, c'est demandé s'il serait à la hauteur. Comme n'importe qui, vous savez, quand on reçoit une très grande responsabilité, ça peut arriver dans la vie, on se pose des questions. C'est un homme pieux, je l'ai dit, on le redira. Il a trouvé une grande force dans la prière. Pour lui, ça a toujours été quelque chose de très, très important. Donc, maintenant, oui, c'était un petit peu une épreuve.
C'est un homme jeune. À l'époque, il a 27 ans. Zita en a 22.
Voilà. Ils sont tout jeunes. Songez donc, à 27 ans, faut bien se dire, aujourd'hui, l'Autriche-Hongrie, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. Ça a disparu. Mais enfin, à cette époque, c'est la quatrième puissance européenne. Je veux dire, derrière la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, c'est la quatrième puissance européenne. Donc, Donc à 27 ans, vous devenez brusquement le successeur, potentiellement le chef d'État à quelques mois ou quelques années près de la 4e puissance européenne. Ça n'est pas rien.
Mmh. Alors, vous insistez bien sur le fait, Jean Sevilla, que c'est une charge à devoir et ce n'est pas une charge qui donne des droits. Au fond, on a une vision très erronée de la monarchie et de l'Empire. Hein.
Oui, surtout une vision erronée d'abord, on a souvent une vision erronée des monarchies et même des monarchies d'Ancien Régime, mais dans le cadre de la monarchie austro-hongroise au début du XIXe siècle, on n'est plus dans une société d'Ancien Régime. La monarchie est une monarchie, disons, parlementaire, enfin en tout cas il y a un parlement en Autriche qui est élu au suffrage universel, qui élit des partis, il y a un parti socialiste, il y a un parti qui est marxiste même, c'est-à-dire que toute la vie politique moderne existe sous cette monarchie, le choc des partis, le choc des idées, et donc l'empereur a des pouvoirs tout à fait considérables, mais il doit pour faire adopter ses lois, eh bien il doit passer par le parlement, et ce parlement est le lieu de multiples débats et de multiples affrontements qui reflètent précisément toutes les tendances nationales, politiques, religieuses qui existent au sein de l'Empire. Et donc, on est dans le cadre d'un État tout à fait moderne.
Hein, c'est une monarchie qui suit la modernité ou bien qui crée la modernité ?
Les deux. Au XIXe siècle, au début, dans le premier tiers du XIXe siècle, les Habsbourg ont intégré la notion parlementaire forcée, contraint et forcée. Hein. C'est la révolution de 1848 qui va être très importante en Autriche. Et c'est le courant aussi des idées de 1830, tout ça va jouer. Mais une fois qu'ils l'ont intégré, ils l'ont intégré. Et là où il l'a créé, la modernité, je pense, c'est que à cette aire géographique très large que représente l'Europe centrale et danubienne, ils vont donner une unité au-delà de la diversité qui à cette poussière de peuple va donner une force tout à fait considérable et qui va faire que va émerger une véritable modernité. La modernité habsbourgeoise, tout ce dont on parle qui existe effectivement, toute cette modernité viennoise en art, la psychanalyse, les peintres modernes, Schill, Klimt, Kokoschka, tout ce dont aujourd'hui qui est très à la mode, cette littérature qui est très très à la mode, eh bien c'est, qu'on le veuille ou non, c'est le fruit de la civilisation bourgeoise. Et puis il y a aussi une force industrielle qui se crée. L'Empire austro-hongrois, et je vous l'ai dit, est la 4e puissance européenne, ce qui n'est pas rien.
Eh bien, Jean-Sévian, nous retrouvons après une seconde pause pour cette fois évoquer la chute de la monarchie austro-hongroise. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean Sevilla. Jean Sevilla, qui est l'auteur d'une biographie consacrée à Zita de Habsbourg, parue aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus. Alors nous sommes en 1914. C'est l'éclatement de la Première Guerre. Est-ce que Charles est associé aux décisions politiques de François-Joseph à cette époque ?
Aux décisions politiques, non. À partir du moment où il devient le successeur de François-Joseph et où l'Autriche-Hongrie entre dans la guerre, François-Joseph va faire en sorte que son petit-neveu monte très vite dans la hiérarchie militaire. Il est officier, donc il fait la guerre comme officier, mais il le fait à des postes de commandement de plus en plus élevés, mais tout en restant sur le terrain parce que François-Joseph y tient. Maintenant, il n'est pas associé réellement aux décisions politiques. Alors, Une des hypothèses est que François-Joseph voulait que son neveu, en quelque sorte, reste vierge politiquement par rapport à l'avenir, qu'il n'ait pas à porter le poids d'un héritage, d'une situation que François-Joseph savait. C'était un homme fin, François-Joseph, contrairement à ce qu'on dit. Il savait que pour son successeur, ça ne serait pas facile. Donc, il n'y a pas une véritable préparation politique de Charles. On lui fait prendre des cours accélérés. Il travaille avec des juristes, avec des professeurs d'université pour avoir une vision géopolitique internationale accrue sur le fonctionnement extérieur ou intérieur de l'Empire. Maintenant, les vraies décisions se prennent sans lui.
Cette formation politique ne vient-elle pas un peu tardivement ?
Non, elle vient en son temps. Ce qui vient trop tôt, c'est le fait que Charles est le successeur. Si vous voulez, c'était pas prévu. Alors, on peut refaire l'histoire. On pourrait dire qu'ils auraient dû prévoir, mais on peut rien prévoir. Comment prévoir que François Ferdinand allait être assassiné en 1914 ? Il est certain que, ça j'en suis persuadé, que quand Charles montera sur le trône en 1916, à la mort de François Joseph, il n'était pas prêt, il n'était pas préparé suffisamment à être souverain. C'est évident. C'est ça le problème. C'est que là où cette formation qu'il aurait dû acquérir sur une dizaine d'années, eh bien, il a fallu qu'il l'acquiert en quelques mois. Et il n'était pas prêt en 1916.
Alors, revenons-en à Zita. La position de Zita n'est pas une position facile parce que c'est une Bourbon-Parme et la famille Bourbon-Parme est dans ce conflit divisée.
Elle est divisée puisque, on l'a dit au début de l'émission, les Parmes, au fond, on ne sait pas exactement quelle est leur nationalité. Eux-mêmes ne veulent pas tout à fait le savoir. Et les jeunes princes de Parme, qui sont tous des jeunes hommes en âge d'être officiers, considèrent que c'est de leur devoir, évidemment, de participer à la guerre. Mais ils vont le faire selon des critères qui sont différents. Et donc, Zita aura des frères qui, puisque les Bourbons-Parmes étaient accueillis par l'Autriche-Hongrie, se considéraient comme tenus par loyalisme à l'égard du pays qui les accueillait. Et donc, ils vont demander leur intégration dans l'armée austro-hongroise et feront la guerre au sein de l'armée austro-hongroise. La seule condition qu'ils auront demandée, qui sera toujours respectée, ils demanderont à ne jamais servir sur le front ouest, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas combattre des Français, puisqu'ils se considèrent aussi comme des princes en partie français. Et d'autres frères de Zita, les princes Sixte et Xavier, qui vont jouer un rôle dans l'histoire, on le dira tout à l'heure, eh bien, eux font un choix inverse. Ils considèrent qu'ils sont des princes d'ascendance française, ils considèrent donc qu'ils doivent plus à la France, en quelque sorte, et donc ils veulent se battre du côté des alliés. Donc, ils vont demander, au moment de la déclaration de guerre, ils sont sur le territoire autrichien. François-Joseph, avec beaucoup d'élégance, leur délivre des sauf-conduits pour quitter le pays, ce qui était pas régulier par rapport aux règles. Ils auraient dû être internés au sens en soi s'il avait fallu appliquer les lois austro-hongroises, mais donc on leur donne des sauf-conduits et ils vont passer par la Suisse, ils rejoignent la France. Et là, ils demandent donc à être intégrés dans l'armée française. On le refuse au nom des lois qui frappent les familles ayant régné sur la France, loi de 1886. Et donc, ils vont aussi demander à faire la même demande en Angleterre. L'Angleterre ne va pas les accepter. Et finalement, c'est le roi des Belges qui va les prendre. Et donc, les princes Sixte et Xavier vont servir comme dans l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, le 21 novembre, vous le disiez tout à l'heure, le 21 novembre 1916, François-Joseph meurt à son tour. Donc, c'est un jour de tristesse pour Charles, mais cette fois, jour de responsabilité. Et on associe généralement Charles de Habsbourg aux tentatives de paix, en tous les cas, à un sentiment pacifique.
Charles, la guerre, il la voit se dérouler. C'est un homme de terrain, je vous l'ai dit, il fait son métier d'officier, c'est un homme qui est attentif aux autres hommes. Il voit combien la guerre fait souffrir les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui le hante. À la fois, il est très loyal à son pays. Il pense qu'il faut que l'Autriche gagne, c'est ce qu'il pense au début. Et puis, au fur et à mesure du développement de la guerre, il va mesuré que les chances de l'Autriche-Hongrie de gagner la guerre se réduisent et voire s'anéantissent. Et donc, il va être, lui, hanté par un autre problème qui est de faire comment sortir de cette guerre. Comment faire que tant d'hommes ne meurent pas à la guerre. Ça va être son obsession.
Dès le 22 novembre 1916, il publie un manifeste et ses mots sont sans ambiguïté. Il dit « Je veux tout faire pour bannir dans le plus bref délai les horreurs et les sacrifices de la guerre pour rendre à mes peuples les bénédictions de la paix, dès que l'honneur de nos armes, les exigences vitales de mes États et de leurs fidèles alliés et l'acharnement de nos ennemis le permettront. » C'est tout un programme de paix, au fond.
C'est un programme de paix, oui. Non, mais dès qu'il accède au trône, c'est son programme. Sortir, c'est sa première exigence, c'est sortir l'Autriche-Hongrie de la guerre.
Alors, dans ce désir, il va rencontrer une opposition qui est une opposition allemande. Vous le montrez très opposé finalement aux Prussiens, à l'esprit prussien, à l'esprit militaire prussien.
Oui, entre le haut état-major allemand et Charles, le courant ne passe pas du tout. Il y a une vision de la guerre ultra belliciste telle qu'elle est pratiquée en effet par les Prussiens, qui n'est pas celle de Charles. D'abord, Charles économise le sang des hommes, c'est son grand souci. Et puis les Allemands lancent la guerre sous-marine, ce qui choque beaucoup, c'est quelque chose de nouveau à l'époque, hein, première 1917, l'apparition de la guerre sous-marine, qui, au regard du code de l'honneur traditionnel, est quelque chose d'extrêmement choquant, le fait de tuer à découvert, enfin sans la guerre d'autrefois, eh bien on se tirait dessus en se voyant, en se regardant. Là, on tue des hommes sans qu'ils le sachent. Et donc ça choque beaucoup Charles pour des raisons morales. Et donc lui veut sortir son pays de la guerre. Et donc il va en effet être en situation d'opposition tout à fait radicale avec l'autre état-major allemand qui très vite sent que cette volonté des Autrichiens de sortir de cette affaire et de l'autre état-major n'est pas d'accord du tout, évidemment.
Il y a aussi la question de la révolution russe. C'est-à-dire que l'Allemagne soutient la révolution russe.
L'Allemagne soutient la révolution russe. On sait que Lénine a traversé l'Allemagne avec l'aide de l'argent allemand et rejoindra la Russie pour faire la révolution avec l'aide de l'argent allemand. Charles, qui est au courant en partie des manœuvres des Allemands, pense que c'est de la folie parce que lui a une vision très classique. Il pense que le principe révolutionnaire est mauvais. Il pense que le répandre finira par punir tout le monde. Et je crois, de ce point de vue-là, que l'avenir lui a donné raison.
Vous allez, Jean Sévia, jusqu'à opposer le racisme allemand, ou en tous les cas, une certaine conception allemande, au génie autrichien. Est-ce que, au fond, ce n'est pas une alliance contre nature que nous avons là?
Oui, c'est une alliance contre nature qui s'est nouée parce que la géopolitique l'a voulu. Mais l'Allemagne, qui est un pays mononational, hein, mène sa guerre. Et il y a une vision pan-germanique, une philosophie pan-germanique. Vous avez utilisé le mot de racisme. Je l'emploie dans mon livre. Il ne faut pas l'entendre au sens où l'entendons en 2004, bien entendu. Mais c'est une conception, disons, ethnique de la nation. Cette vision n'est pas celle des Habsbourg, n'est pas celle de l'Autriche, parce que l'Autriche est une puissance multinationale. Une fois encore, les Habsbourg règnent sur une douzaine de peuples, même si l'allemand est la langue de commandement l'armée austro-hongroise, les règlements des régiments, les sous-officiers, etc., tout ça se fait selon les langues nationales de chacun des régiments qui peuvent être originaires de tous les coins de l'Empire. Et donc, il y a une pratique multinationale dans le fonctionnement de l'armée austro-hongroise. Et au-delà, dans le génie austro-hongrois, il y a le fait qu'il y a cet empire à tirer le meilleur des capacités ou à essayer. Parfois, n'y est pas parvenu. Je ne dis pas que tout était parfait. Rien n'est jamais parfait en histoire. Mais enfin, cet empire a su essayer, a voulu tenter de tirer le meilleur de chacun des peuples qu'il composait. On est donc donc dans une vision, en effet, une vision politique qui est différente de celle de l'Empire allemand qui lui, mène le grand destin du peuple allemand vers une... Est-ce que c'est une domination européenne ? On pourra toujours en parler, mais de toute façon, enfin, il y a deux visions de l'histoire qui se dressent, qui ne sont pas les mêmes à Berlin et à Vienne.
Vous citez sur le plan de l'action politique de Charles, vous citez un dilemme insoluble qui est présenté par l'historien Gordon Brooke Shepherd. Vous le citez, Charles avait besoin de réformer pour imposer la paix, et il avait besoin de la paix pour imposer des réformes. Au fond, il n'arrive pas à résoudre cette équation.
Qui
lui sera fatale. Mais les recherches historiographiques les plus récentes montrent qu'il y avait le loyalisme des peuples d'Autriche-Hongrie jusque dans les derniers mois.
Très tard, pratiquement jusqu'en novembre 18, l'armée austro-hongroise tient bon. C'est une armée multinationale. Et alors qu'on est au siècle des nationalismes, si vous voulez, les Serbes d'Autriche-Hongrie affrontent des régiments serbes de la Serbie indépendante. Le loyalisme habsbourgeois était très profond puisqu'il a tenu très très longtemps. Et puis, il y a un moment où c'est les mystères de l'histoire, tout s'effondre et tout s'effondre en 3 semaines. Cet empire qui semblait si solide, cette armée qui a été si longtemps cohérente, eh bien, tout ça, en 3 semaines, va s'effondrer entre fin octobre et début novembre 1918. C'est l'effondrement. Pourquoi est-ce que tout s'effondre si vite ? C'est le mystère des révolutions. C'est pourquoi est-ce qu'en 89, la révolution éclate ? Pourquoi, etc. Pourquoi elle a éclaté en 1917 en Russie ? C'est une grande interrogation qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, mais parce qu'il faut croire qu'il y a des forces qui tiennent, et puis à un moment, voilà, c'est la mécanique, c'est comme en architecture, il y a un moment où quand les tensions sont trop fortes, eh bien, un bâtiment s'effondre, eh bien, là, on a le même phénomène.
Est-ce que ces tensions sont plus d'ordre intérieur ou d'ordre extérieur ? Clémenceau,
Elles ont été attisées à l'extérieur. À partir du moment où les alliés, à partir de 1916 pratiquement, les alliés se sont dit... Ils veulent gagner la guerre, ce qui est logique, et ils se sont dit, on va démanteler l'Autriche-Hongrie. Et on va démanteler l'Autriche-Hongrie selon un plan national, c'est-à-dire qu'on donnera aux Tchèques un État, on donnera aux Hongrois un État, on donnera aux Slaves du Sud un État, etc. Et donc, dès 1916, du côté allié, l'Autriche-Hongrie est condamnée à mort.
S'il n'y avait pas eu cette volonté politique extérieure, est-ce que vous pensez que l'Empire, au fond, aurait pu perdurer ?
S'il n'y avait pas eu la guerre, je voudrais dire, s'il n'y avait pas eu la guerre, parce que la guerre dévore tout, la guerre détruit tout. Hein. Elle détruit les hommes, elle détruit les structures, les institutions, elle détruit les âmes. La guerre, c'est la pire des choses. Je crois très sincèrement... que si l'Autriche-Hongrie n'avait pas affronté la Première Guerre mondiale, elle aurait pu durer si elle avait eu aussi un plan de réforme très important. François Ferdinand y avait pensé, Charles y pensait. Des réformes étaient nécessaires pour rééquilibrer la situation entre les différentes nationalités et pour l'Autriche-Hongrie était partagée entre deux. Il y avait le côté autrichien qui était plus moderne, hein, où il y avait tous les droits dont on a parlé tout à l'heure, les droits parlementaires, droits d'association, etc. La partie hongroise était moins développée et moins les droits modernes étaient moins reconnus, et donc il y avait beaucoup de réformes à faire, mais en soi c'était pas impossible parce qu'on voit que le loyalisme à l'égard de la dynastie était très profond.
Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Academy, l'émission Un jour dans l'histoire qui reçoit Jean Sevilla, qui est l'auteur d'une biographie consacrée à Zita de Habsbourg, parue aux éditions Perrin. Alors la guerre vient de se terminer et on est assez triste de voir cet empereur déchu qui part en exil dans le plus grand dénuement, puisqu'il part à Madère Alors que d'un autre côté, on voit Guillaume Hohenzollern, qui lui part aux Pays-Bas, non pas dans l'opulence, mais dans une richesse beaucoup plus grande. Comment expliquer cette différence de traitement ?
Parce que Charles ne doutait pas du loyalisme de ses peuples et que les Habsbourg régnaient depuis le XIIIe siècle sur l'Autriche et qu'il n'est venu à l'idée que sa monarchie pourrait s'effondrer. Ça, c'est une idée qui n'était pas venue à l'esprit. Et puis, c'était un pur d'une certaine manière. Il ne pensait pas aux problèmes matériels, aux problèmes financiers. Donc, il n'a jamais pris une précaution quelconque pour mettre de l'argent à l'étranger, à l'abri, ce qu'avait fait Guillaume II. Et donc, ils partiront dans le grand dénuement, oui, en exil.
Vous évoquez, nous parlions des bijoux tout à l'heure de Zita, quand nous évoquions son charisme et son physique. Elle va vendre ses bijoux.
Oui, qui sont des bijoux qui appartenaient aux Habsbourg, certains ont été portés par l'impératrice Elisabeth, Sissi, etc., qui sont des bijoux de la famille impériale, qui seront vendus pour subvenir tout simplement aux besoins de la famille, parce que les Habsbourg en exil n'ont pas de revenus.
Oui, parce que vraiment, ils vivent dans la plus grande pauvreté sur ce petit caillou de l'île de Madère. Comment arrivent-ils au fond à Madère ? Pourquoi Madère ?
Ils ont été exilés parce que, c'est une histoire résumée en une minute, c'est compliqué, mais il y a eu une tentative en 1921, une tentative de restauration en Hongrie, tentative militaire, un coup d'État royaliste en quelque sorte, Charles voulant redevenir roi d'Hongrie, cette affaire échouera et donc les Anglais, les Alliés exileront Charles et Zita dans l'île de Madère qui appartient au Portugal, je le rappelle.
Donc ce sont les Anglais qui demandent l'exil.
Oui, avec la conférence des ambassadeurs qui réunissait les pays alliés pendant la guerre, s'était mis d'accord sur cette formule. Ce sont les Anglais qui s'en sont chargés. C'est un navire de la Navy qui a transporté Charles et Zita à Madère.
Alors Charles va être très marqué, on peut dire, physiquement, et au fond, il va en mourir.
Il est épuisé physiquement et il se trouve qu'à Madère, un jour, il se promène, il prend froid, il n'est pas soigné, mal soigné, on ne connaît pas les antibiotiques. Il meurt d'une pneumonie, au fond. Il va mourir, en effet, le 1er avril 1922. Il a 34 ans, il aurait été empereur 2 années, il meurt dans le plus grand dénuement, il laisse une jeune veuve qui a 30 années, Zita, ils sont à l'époque parents de 7 enfants et Zita est enceinte de son 8e enfant qui mourra orpheline de père.
Alors bien des années plus tard, je ne sais plus si c'est en 1988 ou en 1989, il y aura une cause, un procès en béatification. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ?
Ce procès aboutit, tout a été bouclé, donc le 3 octobre prochain, le 3 octobre 2004 à Rome, Jean-Paul II va prononcer la béatification de Charles Ier d'Autriche, roi Charles IV en Hongrie. Cette mise sur les autels en quelque sorte d'un souverain catholique et n'est pas arrivée dans l'histoire de l'Église depuis très longtemps et c'est un événement qui pour moi a beaucoup de sens. Du sens spirituel sûrement par rapport à la personnalité de Charles, la personnalité un petit peu sacrificielle et puis par sens politique aussi parce que au moment où on s'interroge sur les racines chrétiennes de l'Europe, je crois que cette figure d'un souverain le christianisme a été quelque chose de très important et a du sens.
Alors il n'y a pas, après la mort de Charles, de résignation de la part de Zita. C'est une femme de tête, nous la présentions comme telle tout à l'heure, et elle va se distinguer notamment dans son opposition au nazisme et notamment à l'emprise du nazisme sur l'Autriche.
Oui, elle aura préparé son fils aîné, après la mort de Charles, le fils aîné de Charles Zita, Otto de Habsbourg, est donc devenu le chef de la maison de Habsbourg. À sa majorité, il a exercé effectivement les fonctions de chef de maison, sa mère ayant en quelque sorte assuré une forme de régence. Et les Habsbourg seront parmi ceux qui seront l'âme de la résistance autrichienne au nazisme avant l'Anschluss et après l'Anschluss. Il y a de grandes forces au sein du légitimisme autrichien pour sauver le pays de l'agression du nazisme. Et c'est à mon avis, à l'honneur des Habsbourg, que ce combat qui est peu connu en France et que je raconte dans mon livre.
Hitler redoutait véritablement ce sentiment dynastique.
Oui, bien sûr, puisque Hitler, qu'est-ce que c'était ? C'était un petit caporal qui fascinait les foules, mais qui n'avait pas légitimité historique, tandis que les Habsbourg, ils le savaient, au fond, c'était l'histoire, et l'histoire est toujours c'est toujours l'histoire qui gagne.
Eh bien, Jean Sévillage, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai Le terrorisme intellectuel, qui a été réédité chez Perrin dans la collection Tempus, la même collection qui a de nouveau accueilli votre livre Zita, Impératrice Courage, 1892-1989. Nous nous retrouvons dans un instant pour les 5 minutes de Clio. À tout de suite.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
Nous nous retrouvons pour les 5 minutes de Clio. Jean Sévilla, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ?
Ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'en est un quand même. C'est les Trois Mousquetaires, évidemment.
Vous avez la même réponse qu'Henri Amouroux, que j'ai reçu la semaine dernière. Votre livre d'histoire sur la table de chevet aujourd'hui ?
Je lis une biographie de Lyautey, écrite par Arnaud Tessier. C'est un livre paru chez Perrin. Personnage tout à fait capital, Lyautey, qui est au fond un personnage très moderne parce qu'il est sur les interrogations que nous avons nous aujourd'hui de la rencontre entre l'Occident et l'Islam, eh bien Lyautey a beaucoup de choses à dire.
Le seul livre que vous garderiez en exil ?
Je crois tout simplement la Bible.
La Bible. Le fait majeur du XXe siècle ?
La Grande Guerre 1914-1918, parce que tout en découle, y compris la Seconde Guerre, tout est contenu dans la Grande Guerre, qui est le grand basculement de l'Europe.
Le fait majeur de l'histoire de France ?
Sûrement la Révolution française, parce que c'est une cassure et que...
Vous rejoignez encore Henri Amouroux.
Et que les cassures sont difficiles à réparer parfois.
Le fait historique le plus décevant ?
Il y en a beaucoup, on pourrait dire la Commune de Paris, sur lequel il y a beaucoup de mythologie, mais dont je ne pense pas du bien.
Le plus grand fait d'armes, une question que je me suis permis de prendre au questionnaire de Proust.
Écoutez, Verdun, tout simplement, c'est admirable, triste, ça fait pleurer quand on lit l'histoire de Verdun, toute cette jeune paysannerie française, ces garçons de 18 ans qui, par dizaines de milliers, se sont fait hacher menu. Pour tenir bon, je trouve ça admirable. C'est une mentalité qu'on ne comprend plus.
On ne peut qu'inciter nos auditeurs à découvrir la Première Guerre mondiale, car au fond, comme vous le dites, c'est le fait majeur du XXe siècle. Le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ?
On va dire Notre-Dame de Paris, parce que c'est ma cathédrale.
Quel est le patrimoine à préserver coûte que coûte ? En France ou dans le monde ?
Écoutez, tous les patrimoines, je crois qu'il ne faut pas faire de choix. Si on peut, il faut tout sauver. Tout est patrimoine, enfin tout, oui. Il faut. On a redécouvert la notion de patrimoine, c'est une grande chose. Il y a une époque où on détruisait beaucoup, maintenant on ne détruit plus, je crois que c'est une bonne chose.
Le voyage culturel que vous referiez volontiers ou que vous n'avez pas fait ?
Écoutez, que je referais volontiers, on va dire la Toscane, voilà. Toscane, vous savez que c'est l'endroit le plus merveilleux d'Italie et c'est peut-être l'endroit le plus merveilleux du monde après la France et après l'Autriche, bien sûr.
Alors, vous arrivez dans l'au-delà. Quel personnage de notre histoire iriez-vous voir immédiatement et quelles questions lui poseriez-vous ?
Écoutez, j'irais peut-être voir Louis XVI et puis je lui demanderais si est-ce que ça aurait pu se passer autrement, si vous aviez fait autrement. C'est toute notre histoire qui est contenue là. C'est un grand drame, l'histoire de Louis XVI.
Jean Sévillage, je vous remercie et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.